Il est 10h à Paris. Voici donc les trésors des musiques africaines.
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
Bonjour, bonjour, bonjour. Et ce n'est pas un poisson, ce n'est que nous. Bonjour Roberti.
Bonjour de Manu. Et c'est pas un poisson, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce seront et c'est déjà des joyeuses Pâques.
Et oui, ça sonne de partout, les cloches, le chocolat, tout ce que vous voulez. Et surtout le poisson, on discutait en dehors du micro avec François tout à l'heure. Lui, il parlait des œufs, moi je parlais du poisson, donc on a résumé ça en caviar.
Alors en tout cas, il y en a un qui est plus cher que l'autre, quoique, on ne sait pas.
On ne sait pas, ça dépend de la marée. Hein, des...
Mais dis donc, Manu, toi tu parles de caviar, parce que nous on a vu des boîtes, bon on en a peut-être mangé François et moi, mais beaucoup moins que toi j'imagine. À l'époque, il paraît que le caviar, bon, c'était déjà un produit dit de luxe, mais que ça arrivait quand même sur certaines tables dans les années de braise.
Oui, mais tu sais, dans toutes ces années-là, il y a toujours les gens qui trouvent moyen, n'est-ce pas, d'avoir un transport, des fois licite, des fois illicite, parce qu'il faut quand même que ça se transporte à quelques, tu as bien dit, quelques tables. Alors, les quelques tables, c'est toujours pratiquement les mêmes, c'est toujours les quelques, hein, c'est jamais la majorité, quoi, tu vois. Encore que, des fois, le caviar, au départ, ça devait être un truc de pauvre, quoi, qui a été adopté. Comme quand tu vas à Marie-Galante, la langouste, c'était un mets pour les pauvres, au début. Hein.
Ah ben dis donc, on aimerait bien.
Voilà, on allait à l'école, quand on mangeait la langouste à Marie-Galante, on se lavait bien pour que les copains ne sentent pas l'odeur de la langouste, parce que c'était vraiment pour les paysans, quoi.
Eh ben dis donc.
Voilà, donc les voyages, il y a voyages et voyages. Voilà.
Autre temps, autre manière.
Exactement. Mais nous voyageons tous les dimanches. Et on voyage toujours en classe de luxe. Question musicale pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Hein?
Et surtout un voyage en famille. On emmène tout le monde en attendant les fameux congés qui arrivent.
Yes, et on commence par les papis.
Les mamies, les papas, les mamans, sans oublier la progéniture.
Alors, caviar pour tout le monde aujourd'hui, allez hop. L'émission est basée sur le couvert de caviar, un produit, ma foi, de luxe, parce que notre musique, elle est luxueuse, surtout pour ceux qui l'ont connue. Et pour ceux qui ne l'ont pas connue, ben, elle gagne à être connue, parce que tous les dimanches, on voyage à travers les merveilles du passé, comme dirait notre ami Gilles Salah.
Et oui, et dans ces merveilles, alors il y a ce que l'on pourrait appeler, c'est le cas de le dire, un caviar vocal, parce que dis donc, celui-là, c'est un artiste intemporel dont on aime à retrouver d'ailleurs, eh bien, La Trace, c'est le nom d'ailleurs du film qui lui a été consacré.
Voilà, donc dans la série, il était une fois un certain Kouyaté.
Sori Kandia, la voix du Sili.
Voilà, le caviar de luxe de ce dimanche.
Et oui, et ce sera évidemment juste après notre chère réclame.
Exact.
Sur Africa numéro 1.
La radio africaine se souvient d'une grande voix d'Afrique, et d'ailleurs, car ce grand monsieur de Manu a eu une popularité qui a traversé les frontières.
Ah oui, c'est pas seulement les gens du Sili. Ça a débordé le cadre jusqu'au moment où il a eu même l'Académie Cross, ce qui suppose c'est que sa musique a voyagé loin, loin de ses frontières d'origine.
Kouyaté Sori Kandia, tu le disais un peu comme Nat King Cole qui est parti trop vite, il avait juste 44 ans, on a tendance à oublier que ces artistes ont démarré leur carrière à un âge finalement assez jeune. Lui c'était de famille, qu'il était griot, mais la popularité est arrivée assez vite.
Si on était un peu impertinent, on demanderait au Seigneur, bien miséricordieux d'ailleurs, comment ça se fait qu'il nous enlève notre caviar si tôt? Parce que, effectivement, à 44 ans, tu entres en plein dans la vie adulte, tu commences à apprécier, toi-même, tu as ton cap fixé, en général, vers 40 ans, tu as le final cut, comme on dit, hein. Et sitôt que tu entres dedans, tu t'en vas déjà. Heureusement qu'il y a la mémoire. La mémoire qui est imprimée dans les disques et qu'on peut se souvenir de lui pendant très très longtemps.
Ekuyate Sorikandia traverse le temps. Il y a quelque chose aussi incroyable dans cette destinée. Lui qui chantait dans les contrées ouest africaines et qui était connu d'ailleurs pour prêter sa voix à différents événements, est parti un 25 décembre, un jour de Noël, ce qui lui confère une étoile, tu l'avais dit dans une autre émission qu'on lui avait consacrée way back, une étoile particulière.
Oui, parce que en tant que musulman, partir un 25 décembre, quand même, il faut avoir la foi.
Ça nous rappelle James Brown d'ailleurs.
Lui aussi, alors lui il était pas par contre musulman, mais là l'ambiguïté de la vie fait que finalement les étiquettes et tout ça flambent quand c'est l'heure, hein. Et raison de plus pour se souvenir de lui d'ailleurs, parce que franchement ça a été, comment on dirait les Italiens, c'était un peu le Caruso de l'Ouest, hein, quand même, parce qu'il avait une voix magnifique qui avait pas besoin de micro. De loin, on l'entendait. D'ailleurs, c'était un chanteur pour les grandes cours de l'époque. Hein.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de royal dans ces musiques. Il y a des instruments et voire des arrangements qui rappellent un peu ce que l'on voit ici dans les films qui retracent le Moyen-Âge. Certains disaient ménestrel africain, d'autres disaient un barde de la Guinée Sékou Touré. C'est les termes qui lui étaient prêtés. Lui disait simplement qu'il était griot.
Oui, mais quand tu dis barde, l'occidental comprend mieux. Tu vois, griot, oui, ça c'est particulier à l'Afrique. Barde, c'est là aussi, ça franchit les frontières dans la compréhension, hein, tu vois. Il y a des moments où la francophonie a quand même du bon.
Alors que le débat est agité,
oui.
Et puis Kouyaté Sorikandia, ce sont également des musiques alors qui traversent le temps. Nous on aime bien fouiller parce qu'il y a les classiques que tout le monde connaît comme Conakry, mais il y en a d'autres de Amanou qui sont restés dans des coffres, dont des malles, et qui ont eu un succès plus local qu'international.
Voilà pourquoi il y a toujours une ambiguïté avec les long playing, les 30 cm, parce que tu mets 10, 12, 15 morceaux, et en fait les gens s'arrêtent sur un ou deux morceaux, dans les meilleurs des cas sur un, mais un qui dure, tu vois. Alors des fois on se pose la question, pourquoi mettre 15 morceaux dans un disque alors que les gens n'en écoutent et ne retiennent que un ou deux, sauf que, comme tu le dis, il y a des succès locaux qui ne franchissent pas la frontière, et donc les succès locaux ne sont pas toujours les plus connus à l'extérieur.
Alors justement, parenthèse artistique, Doua Manou, quand toi tu aimes plus une chanson dans un de tes disques, et que finalement les gens en regardent plus une autre, qu'est-ce que ça te fait ?
On est quand même content qu'on retienne une chanson. Mais pas forcément celle que vous, compositeur, aimez. Moi, je me rappelle de Nino Ferrer, par exemple, que j'ai eu très grand chanteur. Pour ceux qui n'ont pas l'âge de savoir qui était Nino, c'est un des grands yéyéman des années de Johnny Hallyday, quoi, les années 60 et tout ça, le Golfe Drouot. Quelqu'un qui était très populaire sur les chansons qu'il avait faites, mais que lui, personnellement, n'appréciait pas plus que ça. Et ce que lui, il appréciait dans ses disques, c'est pas forcément ce que le public, lui, il aimait. Alors, il piquait des crises incroyables. En même temps, il devait sourire parce que j'avais pas vu Mirza. Bon. Tu entends ça à longueur d'année. Et lui, c'est plutôt les maisons près de la fontaine et des choses comme ça. Donc il y a toujours un malentendu avec les artistes d'ailleurs. Tu as raison de poser la question parce que je suis pas le seul. Il y a certainement beaucoup d'autres. Le succès, ils viennent par l'inattendu pour toi.
Un inattendu en tout cas qui nous, de l'autre côté du public, nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien, ce sont les millésimes de Kouyaté Sorikandia.
Voilà que nous allons donc vous proposer ce dimanche matin. Première partie naturellement, qui aime bien, ne châtie pas bien, mais aime bien, fait une peinture de ce qu'il aime quand il peut faire la peinture. En l'occurrence, c'est une peinture chantée de sa ville, sa capitale.
Conakry. Alors Kouyaté Sorikandia la chante, et c'est cette chanson d'ailleurs qui le révélera pour le Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
Voilà, il y en a qui ont chanté Abidjan, il y en a qui ont chanté Dakar, il y en a qui ont chanté Douala, il y en a qui ont chanté Kinshasa, hein, je pense à Francis Bibé.
En sérénade ou non?
Voilà, ça dépend de l'heure. Hein. Et bon, il y en a qui ont chanté Brazzaville, bien sûr. C'est toujours l'amour qui passe par ou une peinture musicale, une peinture, ou une sculpture, ou quelque chose qui passe par une projection artistique de ce que tu éprouves.
On parlait de son goût pour les chansons épurées, et dans Mansane et Cissé, on a juste sa cora et sa voix, et puis la cora d'Ouamanou, on le lit dans le livret, elle sonne comme une sitar ou une harpe, ce sont des instruments dont on parle plus trop. Hein.
Voilà, non, mais c'est resté, eux, par contre, chez les Occidentaux. Sitar, c'est beaucoup plus les pays de l'Est. Qu'est-ce que tu as dit avant? Harpe. Harpe, c'est beaucoup plus dans la musique occidentale. Bon, c'est ça qui se rapproche beaucoup plus de notre kora, en fait.
Et c'est cristallin pour décrire
le son. C'est très, très cristallin. Hein, et puis, on fait pas des harmonies avec ça. On arpège. C'est des instruments arpèges qui ne sont pas des instruments. Il y a une pédale de résonance. On va pas entrer dimanche matin dans la technique, mais disons que souvent les instruments africains à cordes n'ont pas une résonance ou une pédale de résonance où on pose un accord. Tu entends tout l'accord. Nous, on a l'habitude plutôt de dégrainer les notes qui suggèrent le même l'accord, mais qui ne la posent pas. Donc, c'est deux visions du monde un peu différentes, quoi.
Ben, c'est une partie technique qu'on dédie à Serge Gandopando, hein, qui nous écoute peut-être du côté de l'Angleterre, et lui qui a vraiment alors la main sur les cordes.
Oui, oui, oui. Alors, on lui dit bonjour, puis on dit bonjour à Coco aussi, hein.
Évidemment. En leur offrant ce soir ici, alors je parlais du côté magistral, on dirait une entrée dans une corde royale, et là encore, l'artiste prend son temps de Ouamanou, parce qu'il y a au moins une minute et sans dédicace en plus avant qu'il ne chante.
Oui,
et
puis tu as raison, parce que déjà, c'est vrai, il a un port noble, lui. Il avait un port noble de lui-même, la façon dont il était habillé. Il a eu la chance d'être très beau, d'ailleurs. Donc, les habits, il avait le choix des boubous extraordinaires. Et effectivement, tu penses dans ces cours-là, à l'époque où écouter ce type de musique dans une salle, ça emprisonnait la musique. Là, la musique, elle sort, elle va avec le vent, elle s'éparpille. Et donc, il y a une beauté très collée à la nature et qui refuse, qui est rebelle à la salle.
Et lui, il a dû d'ailleurs s'y faire, le Palais du Peuple de Conakry, mais il aimait revenir dans ce qu'on appelle les grains, c'est-à-dire ce cercle d'amis où on parle. Et dans le titre Douga, il y a vraiment une ambiance, je l'ai dit, tasse de thé. Alors, c'est pas une tasse comme on l'entend en Angleterre, mais on a l'impression que, ben voilà, on est là, on écoute la musique. Les titres faisaient des fois un timing de 8 ou 9 minutes.
Hein. T'as raison, ce thé-là, on le voit, il a le temps de glisser dans ta tasse et tout ça. Il y a un cérémonial, d'ailleurs, pour faire ce thé-là, c'est pas le thé. Il y a plusieurs façons de faire le thé au Japon, en Chine. C'est considéré comme un moment privilégié, le thé.
Et il faut être très très patient. Aujourd'hui, on a la machine.
Oui, l'esprit va avec la machine, et avec la montre aussi. Comme admission, moi, le thé avec la machine là-bas, un plus un égale pas forcément deux. On avait le temps d'apprécier que le thé imprègne, que l'eau et tout ça, enfin tout un cérémonial qui va avec aussi la musique, elle a le temps de s'installer la musique.
Eh bien avec une tasse de thé ou alors de café, on vous offre la première partie de ce jukebox consacré à Kouyaté Sorikandia.
Et François va nous mettre une thune dans
le bastring.
Yoro Nura Fo Wele Kamare Nyarisa. Kelente kamare nyari bi mi kamare nyari bi ibi masola mara gasira ka wale kamare nyari sa minata fariga denke pa mai kamare male
Manu Dibango sur Africa numéro 1.
La radio africaine au pays de Kouyaté, Sori Kandia, un minimaliste de Amanou avant l'heure.
Oui, il a créé quand même une grande école, pas école comme on entend en Occident, mais un courant de pensée qui Alors, par contre, c'est très difficile parce que quand tu es seul avec un seul instrument, il faut que tu aies sacrément du talent pour que les gens s'arrêtent pour t'écouter parce que on est tellement envahi d'orchestration, d'autres instruments, le message peut être brouillé et là, il est dépouillé, alors il a intérêt à être fort, juste avec un instrument. D'abord, il faut que tu aies une belle voix, un beau timbre, des belles harmonies, que tu aies un accompagnateur quand même à la hauteur et que tu aies la voix pour porter le message que contient la chanson.
Tiens, Doué Manou, ça me fait penser d'ailleurs en parlant de l'habit à Fonseca, est-ce que du côté des Anges Noirs, de temps en temps, il y a une cora ou des instruments comme ça qui passaient par là?
Non, c'était pas encore l'époque où les musiciens voyager jusqu'en Europe. Les musiciens voyageaient, c'était Afrique-Afrique, hein. Beaucoup de musiciens partaient ou du Congo jusqu'au Sénégal ou l'inverse. Mais c'était pas encore l'époque où on traversait. Il faut dire que, bon, cette époque-là aussi, les avions étaient rares. On voyageait par bateau. Il fallait avoir les moyens d'avoir le bateau pour pouvoir traverser la Méditerranée. Maintenant, on a des bateaux plus légers, en fait.
Enfin, plus légers, ça dépend. Celui sur lequel tu pars en croisière est plus lourd.
Voilà, en général, les croisières, c'est plus lourd. Et on avait plutôt du lourd, il n'y avait pas encore le léger. Quoi. Voilà, donc... on n'y pensait pas encore. D'abord parce que il n'y avait pas encore de demande. Il n'y avait pas de musiciens. Vraiment, en Europe, il y avait des étudiants qui éventuellement pouvaient jouer la guitare, mais la cora, ça se voyageait. Chez un étudiant, c'était plutôt quelque chose qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on arrivait ici à 15-16 ans, tu connaissais déjà pas réellement le folklore de chez toi, tu avais ça en mémoire. Il n'y avait pas beaucoup d'images non plus pour voir ces instruments, pour voir comment ça se passait. Donc, c'était pas encore l'heure. C'est arrivé après, bien longtemps après les indépendances, quand les foyers ont commencé à s'installer et que les gens habitaient les foyers pour aller travailler chez Renault. Ou bien comme ça. Et alors, c'est eux qui pouvaient faire venir, cotiser, faire venir un joueur de cora, etc. Ça a été progressif, en fait.
Ah, d'où la présence de ces instrumentistes dans les foyers Sonacotra et autres.
Voilà.
Ah,
et donc... ceux qui étaient musiciens donc apprenaient que tiens un tel est là et d'où après leur concert dans les foyers les autres musiciens les engageaient pour jouer dans des disques ici. Donc c'est toute une histoire à raconter d'ailleurs que nous vous racontons par bout et tu fais bien de poser ce genre de questions parce que ça n'a pas été immédiat comme ça en fait.
Eh bien, on salue tous nos amis qui nous écoutent. Il y a encore des foyers où les travailleurs vivent, entre guillemets, en communauté et où ils célèbrent l'Afrique, hein, d'ailleurs.
Voilà, ils célèbrent ça concrètement. Pratiquement toutes les semaines, il y a une fête quelque part et c'est toujours bien organisé. On pense au pays.
Et il y a un tailleur dans l'immeuble.
En général, qui vend éventuellement des cassettes. Maintenant, on ne vend plus des cassettes, mais les premiers qui ont commencé à faire, d'ailleurs, les compilations, ce n'était pas des maisons de disques. Hein. C'est dans les foyers qu'on a commencé à acheter des appareils pour multiplier les cassettes.
Un gros clin d'œil, une grosse pensée pour le doyen Mamadou Konté, parce que lui, qu'est-ce qu'il a été précurseur à Marseille ou ailleurs dans ce genre de choses?
Voilà, lui, il avait une vision globale qu'il a pu concrétiser quand même. Il a la chance, c'est que tout de même, Afrique a fait, c'est resté dans la mémoire, et puis les Occidentaux ont pris ça, ont fait quelque chose avec ça, ça continue d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ouais. On va faire un clin d'œil à nos amis du Mali, Kouyaté Sorikandia, chantant Mali Sadio. Alors lui est de ce très très beau pays qui s'appelle la Guinée, mais tu parlais de l'esprit mandingue, et jusqu'à aujourd'hui, Guinée, Mali, Sénégal, on traverse les frontières.
Oui, il avait été question d'ailleurs de faire, au moment des indépendances, de faire une certaine association, jusqu'en Gambie.
Oui.
Il y a une chanson qu'on a jouée à un moment donné qui célébrait ce type d'union entre tous ces pays-là. Et j'espère que ça reviendra parce que le problème sous-régional se posera de plus en plus en Afrique.
Après Mali Sadio, un titre dédié aux mamans. Le morceau s'appelle Na. Et c'est vrai que Kouyaté Sorikandia fouillait et cherchait au fur et à mesure de sa carrière. Là, c'est un saxo qui tient le haut du pavé, ce qui montre qu'il avait vraiment l'esprit ouvert en termes d'arrangement.
Voilà, il n'y avait pas que la cora, il n'y avait pas que voilà, et de temps en temps, les instrumentaux, les musiques instrumentales et les instrumentistes, d'ailleurs, des ventistes, comme on dit en Afrique, s'ajoutaient, des fois c'était le saxo, des fois, rarement le trombone, mais beaucoup la trompette. Et de temps en temps, comme au Congo, et de clarisse, c'est-à-dire la clarinette. Donc tous ces instruments-là faisaient des solos pour faire diversion par rapport aux solos qu'on avait régulièrement avec les guitares. Alors amener des couleurs, la musique devenait un peu plus colorée avec les instruments. Enfin, après, c'était un soliste, mais après il y a eu des sections dans les orchestres, comme African Jazz, comme Ok Jazz, comme Baobab. Tous ces orchestres-là avaient des sections de cuivre par la suite, les Bembeya d'ailleurs, les Amazones, tout ce monde-là, les cuivres sont venus après.
Et alors, tu parlais de l'esprit du mandingue, et dans l'esprit du mandingue, il y a toujours le griotisme dont on parle, et le griotisme, ça voulait dire chanter des noms, des personnalités, et un nom revient souvent à l'époque, c'est Kémé Bourema. Kouyaté Sorikandia le chante ici, mais Bala et ses baladins l'a aussi chanté. Alors on doit se dire que ça devait être un bienfaiteur, comme
ah
le dit
ben, la après ça s'est multiplié, hein, je veux dire, quand tu vas dans notre cher bassin, il y a beaucoup de bienfaiteurs.
Mais c'est quand même plus élégant de Amano, on le dit toujours au niveau des griots, bon peut-être parce que c'est chanté dans la langue, c'est narré. Ici, il faut vraiment fouiller pour se rendre compte qu'il chante quelqu'un, parce que c'est pas l'effet Botin, c'est mélodique de A à Z.
Voilà, l'effet Botin est venu après, parce que bon, c'est une civilisation de, disons, c'est un monde libéral, hein. Donc au départ, le griot, lui, chantait ça naturellement, ça faisait partie de sa culture. Bon, ça s'est vulgarisé après. En général, quand ça se vulgarise, ça va avec, peut-être pas la vulgarité en tant que telle, mais ça devient beaucoup plus commercial. Et le nombre fait que, bon, à chaque fois, après... parce qu'avant, il y avait pas des généraux, il y avait pas des capitaines, il y avait juste des gens qui avaient un peu d'argent, qui étaient des nobles. Et quand ça s'est multiplié, que l'armée est arrivée, que les hommes d'affaires sont arrivés, et dans le même, et forcément, ça devient industriel.
Alors, ce qui était pas forcément industriel, mais en tout cas un devoir national, c'était de chanter le parti unique à l'époque, et la figure, évidemment, qui était celle du guide en Guinée de l'époque, ça veut dire Sékou Touré, avec le parti aux trois initiales qui n'ont rien à voir avec celle auquel on pense.
Oui, mais en général, c'est l'artiste le plus célèbre dans le pays qui était chargé donc de vendre cette affaire-là. Hein, dans tous nos pays, nous avons toujours en trois lettres. Hein, le parti phare, puisque il n'y avait pas d'opposition en tant que tel, donc c'était parti unique, donc c'est sûr que c'était du 99%,
hein. En l'occurrence ici, alors le Parti démocratique guinéen PDG, alors Mama Africa l'a chanté,
le Gabon aussi PDG,
ah ben aussi ouais. Le Gabon l'avait, alors Mama Africa l'a chanté en Guinée, Kouyaté Sorikandia aussi, c'est un titre qui revient au moins chez une vingtaine d'artistes, hein.
Oui, ça se standardise après. Hein. Moi, je me rappelle que PDG, d'ailleurs, PDG au Gabon, la musique, c'est moi. Alors, je peux te dire que ces histoires de parties, j'en connais une petite partie.
Voilà. Ah bon, on va consacrer un numéro, tiens, aux hymnes. Il faut dire qu'il était très bien composé par ailleurs. Hein. Dis donc, il y a des belles versions.
Ouais,
versions belles
ça mélodies. Va jusque Aquaba, VGE, après tous ces trucs-là. Ça passe à la moulinette. Et ça va jusqu'au Pagne.
Oui, aussi.
Hein, c'est imprimé. Donc, c'est la mode. C'est notre façon à nous de recevoir. C'est notre façon à nous de faire la fête. Faut citer les gens d'une façon ou d'une autre, ça va jusqu'aux imprimés.
En tout cas, ce que l'on vous offre ce dimanche dans cette deuxième partie du Jukebox Kouyaté Sorikandia, c'est un saut dans le passé, mais avec des disques qui sont toujours présents dans les bacs grâce à un certain Ibrahima Sylarte.
Oui, la fête à Sylarte, elle est éternelle parce que pratiquement toutes les semaines, nous jouons quand même quelque chose qui sort de ces productions, et comme elles sont nombreuses, voilà, et de qualité, vous avez donc ce monsieur tout le temps dans vos assiettes.
Et ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'on va consacrer à Ibrahima Sylart, via sa fille, qui viendra nous voir dans une quinzaine de jours, eh bien, de belles pages de notre catalogue musical.
On a enfin mis la main dessus, Tito, parce que Dieu sait que pendant des mois et des mois, on demandait est-ce qu'elle allait venir un jour à nos émissions, à une de nos émissions. Et puis, il se trouve que sa maman a écouté une des émissions, et c'est une émissaire quand même de privilégié.
Ah ben oui.
Donc vous aurez la chance d'écouter la fille Assila dans quelques temps, et vous allez voir, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite.
En attendant, une thune dans la machine que l'on aime.
Mm-hmm.
Sur Africa numéro 1.
Na na sorone de mana.
Sur Africa numéro 1.
Thank you.
Quel bonheur sur les 107.5 FM de réécouter la voix de Kouyaté Sori Kandia. Mais Douamanou, ce qui est bien, c'est qu'il y a le film La Trace de Kandia, réalisé par Laurent Chevalier avec l'aide du fiston de Kouyaté.
Donc on reste quand même dans la maison avec quelqu'un qui a très bien connu la personne. Et ma foi, c'est l'Afrique qu'on aime en fait. Parce que quand tu écoutes cette Afrique-là, tu oublies les guerres, tu oublies les dissensions. Tu vois la beauté de l'Afrique qui ne passe pas forcément par tout ce qui est moustique et tout ça. Tu vois la beauté pure. Et souvent, ce genre de chanteurs, d'artistes te font oublier vraiment le côté sombre, si je peux dire.
Alors, c'est aussi un clin d'œil à nos amis des différentes maisons d'édition. On a parlé d'Ibrahima Silart. Il y a aussi des maisons comme Stearns en Angleterre qui, bien avant d'ailleurs, dans les années 80-90, avaient déjà écrit l'histoire de Kouyaté Sori Kandia. Ils avaient été faire des recherches, retrouver des photos, et ils avaient retrouvé Kaby, son fils qu'on va bientôt retrouver. Il était encore tout jeune, il était avec Souleymane Colly dans le côté bas à Abidjan.
Voilà, et puis alors surtout, disons que les anglophones étaient en avance sur nous pour la recherche. Exactement, parce que Stern, ça a été... qui fournit d'ailleurs d'autres maisons de disques, mais c'est le comble d'ailleurs. C'est tous les artistes francophones qui sont beaucoup plus préservés culturellement parlant en Angleterre qu'ici. Et les gens qui s'occupent de ces musiques ici ne sont pas forcément des gens qui... je peux pas dire que ce sont des intellectuels de la ferme. À Londres, ils posent le problème de ces musiques-là autrement qu'en France. Ils considèrent ça beaucoup plus culturellement. Ils sont beaucoup plus considérés et les artistes sont beaucoup plus considérés parce que tu écoutes les disques de Rico Diaz là-bas avec souvent des légendes extraordinaires. Ils fouillent le passé. C'est beaucoup plus que le commerce des disques.
Et en plus, il y a quand même une histoire à partager avec nos frères anglophones au niveau de l'Afrique, car ils sont eux aussi friands des musiques qui viennent de chez nous.
Oui, bah voilà, c'est le 22 à Nier, quoi.
Juste après la réclame, ce sera la suite de notre émission en mode Maramara et ses surprises.
Restez avec nous.